En fait, j'ai oublié de demander qui allait lire, donc c'est moi qui lis. Excusez-moi. Donc, on lira les 23 premiers versets du chapitre 10 des Actes. Donc, Actes 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes qui te cherchent. « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent, « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Prions. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. C'est si précieux pour nous. Et nous voulons la considérer ce matin sous la direction de ton Saint-Esprit. Accompagne-nous à travers ces quelques minutes de réflexion, s'il te plaît. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jocelyne et moi, nous avons vécu un petit peu partout en Australie. Et puis... Il y a 7 ou 8 ans, on est rentré du territoire du Nord en Australie, en Tasmanie, donc d'un bout à l'autre. Et puis, on avait passé justement 3 ans dans le territoire du Nord à travailler parmi les indigènes australiens. Et après ces 3 ans aux expériences bien variées, intéressantes, épuisantes et même frustrantes, bien des fois, nous sommes arrivés à une conclusion pour nous, une conclusion vraiment importante. C'est que nous pouvions faire beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres pour nos indigènes en Australie. Leur apporter une meilleure éducation, même leur apporter une meilleure santé. Mais la seule chose qui allait vraiment procurer un changement pour le mieux à long terme, c'était l'évangile de Jésus-Christ. On a vu ça de nos propres yeux. On pouvait leur donner de l'argent, beaucoup d'argent, pas nous, mais le gouvernement en tout cas. On pouvait leur donner de l'éducation, des cliniques, des hôpitaux. Mais au fond, c'était seulement la bonne nouvelle de Jésus qui allait pouvoir transformer leur vie de manière durable. Quand nous sommes rentrés donc du Niger l'année dernière, nous avons tiré cette même conclusion. Le seul espoir pour les Nigériens, c'est la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile qui mène au salut. Mais en réfléchissant là-dessus, on arrive aussi à la conclusion que quel espoir pour l'Australie, quel espoir pour la France. Est-ce que c'est différent? Oui, la vie est différente en France ou d'un pays à l'autre, mais la condition, le besoin de l'homme n'est pas forcément différent. Ici en France, est-ce que les richesses de ce magnifique pays vont suffire à sécuriser l'avenir de tous les Français? Ou est-ce qu'en fait, avec les élections qui s'approchent, l'avenir paraît rose parce qu'il y aura un nouveau président? Non, mais non. Le cœur de l'homme est le même en Afrique, en Australie, en France. Ni M. Macron, M. Fillon, ni Marine Le Pen, je ne connais pas tous les 10, hein, mais, ne vont pouvoir résoudre les vrais problèmes de la France. Leurs solutions vont toujours nous décevoir, parce qu'elles ne touchent pas à la vraie condition humaine. Notre verset clé pour aujourd'hui, c'est Matthieu 5, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, ou heureux ceux qui répandent la paix dans la traduction du Semeur, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle joie quand on procure la paix. Mais la réalité, pour beaucoup, c'est que la paix reste hors d'atteinte, ça reste loin, insaisissable, et ils n'y parviennent jamais. Et c'est pourquoi ce beau verset de Matthieu est si important pour nous. On parle de différentes formes de paix, comme Jean-Marc a mentionné tout à l'heure. On parle par exemple de la paix avec Dieu, ou la paix de Dieu. On parle de la paix avec Dieu pour exprimer que nous vivions autrefois dans le péché et nous avons été rapprochés de notre Dieu par sa grâce. Auparavant, il y avait de l'hostilité. Nous étions ennemis. Mais à cause du sacrifice de Jésus, cette hostilité a été remplacée par le plein pardon de nos péchés. Et la paix règne entre nous et notre Dieu à ce moment-là. Et puis, par la suite, il y a la paix de Dieu. Cette paix qui fait partie du fruit de son esprit qui vit en nous. J'aime beaucoup les paroles de Paul en 2 Corinthiens 5, à la fin de ce cinquième chapitre, où il dit « Celui qui était innocent de tout péché, le Seigneur Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » En Jésus, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Et c'est là le secret pour trouver la véritable paix avec Dieu et la paix de Dieu. Quand je considère la personne de Jésus et son enseignement dans sa parole, je me rends bien compte combien j'ai besoin qu'il me transforme par son esprit pour me rendre plus comme lui. Mais je me pose la question, est-ce que je suis vraiment ouvert à ce qu'il veut faire en moi, à cette œuvre transformatrice de l'esprit en moi? Car c'est seulement dans l'obéissance à Jésus que je trouve cette paix de Dieu d'une façon constante. Et pour vous, comment est-ce que vous répondez à l'instruction de Jésus? Quelle est votre réaction quand Jésus veut vous mener plus loin dans sa vérité, plus loin dans l'intimité de son cœur? Nous lisons dans les Actes que les chrétiens de Bérée scrutaient chaque jour les Écritures après avoir écouté l'enseignement de Paul. On a l'impression qu'ils avaient tellement envie d'apprendre, de grandir dans la foi et dans leur connaissance de notre Seigneur Jésus. Je suis convaincu qu'ils s'attendaient à cette puissance transformatrice justement de Jésus et de sa parole. Mais souvent nous, on résiste à cette œuvre de transformation. Moi, souvent, j'entends des réactions comme « Oh non, 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 je suis trop vieux pour faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. » Ou « Ici, on ne fait pas ça. » Moi, j'ai toujours fait comme ça. Le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Actes 10, c'est un passage qui m'a vraiment marqué parce que ça représente un des plus grands changements dans la vie des premiers chrétiens. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais j'ai vraiment été interpellé en lisant comment Dieu a provoqué cette transformation si radicale. Parce que à l'époque, les Juifs ne passaient pas de temps avec les non-Juifs. Ils n'avaient rien à faire avec eux. Et puis un jour, Pierre Et sur ce toit, il y a cette vision de cette nappe qui descend devant lui. Et Dieu lui demande de prendre et de manger. Pierre, il avait répondu, jamais de sa vie, il n'avait mangé de choses impures comme celle-là. Mais Dieu avait insisté. Et trois fois la nappe était descendue devant Pierre, accompagnée de la même instruction. Prends, tue et mange. Malgré sa résistance initiale, Pierre comprend que Dieu est en train de lui apprendre quelque chose d'important. Il descend dans la maison et voilà, déjà, il y a des gens qui sont à la porte pour qu'il les accompagne chez Corneille. Remarquez que, et il faut bien remarquer, je crois, que quand les serviteurs de Corneille frappent à la porte, Pierre est bien disposé pour aller avec eux, pour les recevoir. Cependant, quelques heures auparavant, je suis sûr qu'il n'aurait eu le moindre désir ni de les recevoir, ni de les accompagner. Ils n'étaient pas juifs, ces gens-là. Et puis, après la conversion de ces non-juifs, Pierre va à Jérusalem pour raconter ce qui s'est passé à l'église là-bas. Et le premier verset du chapitre 11, ça montre qu'il n'était pas, a priori, bien reçu. Les gens-là n'étaient pas contents de ce qu'il racontait. Mais j'aime tellement la suite. Pierre persévère et il leur explique ce qui s'était passé chez lui et aussi chez Corneille. Et nous lisons au verset 18, c'est un verset vraiment précieux, un peu banal peut-être, mais pour moi vraiment précieux. Ce récit, verset 18 du chapitre 11, ce récit les apaisa. Et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Ils se sont mis d'accord. Ils étaient prêts à changer selon l'onction de Dieu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique et de précieux. Ils ont écouté Pierre, ils ont considéré ce qu'il disait et ils ont changé d'avis. Et ça a représenté, comme je disais, un changement radical dans leur façon de voir la vie, dans leur façon de voir les non-juifs. Mais il a dû avoir une suite. Même si la suite ne figure pas dans le texte biblique, parce que ce changement a dû se traduire par une transformation, pas seulement de leur théorie, mais de la communauté chrétienne. Parce que ces chrétiens d'origine juive seraient obligés, n'est-ce pas, de côtoyer des non-juifs, des gens impurs auparavant, dans leurs réunions, à leurs repas en commun. C'était vraiment une transformation radicale. La théorie était une chose, mais la réalité de partager des repas avec des non-juifs, de s'entraider, de les côtoyer, pour ainsi dire, tous les jours, a dû être tout autre chose. C'était là la vraie transformation, quand la parole était appliquée à la vie chrétienne, quotidienne. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que Dieu vous a interpellé, quand il vous a montré quelque chose de sa parole et que vous avez pu l'appliquer à votre propre vie? Dans notre église à Pakenham, près de Melbourne, Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. C'est tellement encourageant pour nous, Jocelyne et moi qui sommes un petit peu vieux maintenant, de voir les chrétiens en train de chercher la volonté du Seigneur et puis de s'appliquer à la poursuivre. Un exemple de cela dans cette église, ça s'appelle Follow Baptist Church pour ceux qui parlent anglais. Un exemple, et il y en a plusieurs, est un ministère parmi les sans-abri et ceux qui sont seuls. Au cours de la première année de ce projet, Dieu nous a permis de pourvoir des repas à une trentaine de personnes, deux fois par semaine, le mardi soir et le jeudi soir, dans un parc local en face de la gare. Et pendant le repas, ils ont accès à des douches portables et à une buanderie pour pouvoir faire laver leurs vêtements. Mais pour nous, l'aspect le plus spectaculaire, si vous voulez, de ce projet, c'est qu'il y a déjà eu deux baptêmes de personnes contactées par ces repas. Je sais qu'il y en a beaucoup plus qui s'intéressent à l'Évangile, mais il y en a déjà eu deux qui se sont vraiment décidés pour le Seigneur Jésus. Dieu est bon. Heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un autre aspect de la vie qui n'a pas été touché, de la paix, qui n'a pas été touché dans les commentaires de Jean-Marc ou ce que j'ai déjà dit, c'est cet aspect de la paix l'un avec l'autre. Parce que Dieu veut que nous vivions en paix les uns avec les autres. Cependant, il y a souvent des divisions ou des conflits qui s'élèvent entre nous. On dirait même que ça fait partie de la vie. Mais c'est la façon de résoudre ces conflits qui devient très importante dans la vie chrétienne. Dans son livre qui s'appelle Peacemaker, l'Américain Ken Sandy nous pousse à explorer la façon biblique de résoudre les conflits. Il donne même tout un enseignement biblique aux églises pour les équiper et les fortifier contre les conséquences négatives du conflit. Et en effet, nous voyons, et je suis sûr que vous avez vu le long du chemin, les conséquences des conflits non résolus. Des gens blessés, des gens qui ne se parlent plus, des divisions dans l'église ou dans les familles. Ce sont des choses qui ne glorifient point notre Seigneur Jésus. Et donc, cette ressource, Peacemaker, est une arme importante contre les attaques de l'ennemi à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas accès à cette ressource, parce que je crois qu'elle est en anglais, en espagnol, pas en français, vous pouvez commencer par la lecture et la mise en pratique de Matthieu 18, parce que ça, c'est la base de son livre. Ça sera un bon début. Dieu veut que nous vivions en paix les uns avec les autres. En acte aussi bien qu'en parole. Pour finir, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le principe d'apporter la paix à ceux qui ne connaissent pas le prince de paix, Jésus-Christ. En rentrant de Galmi, nous étions convaincus l'année dernière que seul Jésus pouvait faire une différence à long terme dans les vies des gens. J'ai partagé ça avec avec Anne-Sophie, notre fille, au cours de son congé, elle était en Australie à la fin de l'année dernière, et en discutant ça, elle m'a passé le contenu d'un exposé qu'elle avait fait quelques semaines auparavant à une conférence à Sydney. Et dans ce qu'elle avait présenté là, elle parlait de communication qu'elle avait eue avec les gens qui la soutenaient financièrement et dans la prière. Et on lui posait des questions par email. Pourquoi apporter les soins médicaux si les personnes n'entendent jamais parler de Jésus? À quoi bon passer 20 heures par jour à soigner les gens si tu ne peux pas leur apporter Jésus? Anne-Sophie, elle aussi, ressentait lourdement cette tension entre la réponse aux besoins physiques, c'est-à-dire le verre d'eau que Jésus veut qu'on apporte aux gens, et l'ordre de Jésus d'apporter l'évangile partout dans le monde et de faire des disciples. Vous comprenez la tension? Elle avait trouvé que la meilleure réponse à ce dilemme reposait dans le concept hébreu de shalom. Et je sais que vous connaissez ça parce que j'entendais à l'époque, je crois que c'était Jean-Marc qui employait ce mot assez régulièrement et avant lui bien d'autres. C'est un mot qui parle du bien-être, qui touche à tous les domaines de la vie, physique, relationnel, émotionnel, spirituel, à la personne entière. En Australie, nous avons tendance à séparer complètement ces différents aspects, à compartimenter les différents aspects de la vie. C'est peut-être pareil ici en France, mais ce n'est pas le cas pour les peuples d'Afrique. Et ce n'est pas forcément le cas pour Dieu non plus. Anne-Sophie a pris la prophétie d'Ésaïe 53, où nous lisons que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce mot « paix », là, en Ésaïe 53, verset 5, ce mot « paix » en français est effectivement une traduction du mot « shalom ». En Matthieu 8, Matthieu nous dit que Jésus a guéri le lépreux, puis il a guéri le serviteur de l'officier romain, et ensuite il a guéri la belle-mère de Pierre. Et puis au verset 16, il cite ce même passage d'Ésaïe, mais au verset 4, où on lit « Il s'est lui-même chargé de nos infirmités, et il a porté nos maladies. » Jésus a apporté shalom à toutes ces personnes. Et encore après, il a guéri une femme qui saignait depuis 12 ans en disant « Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Après 12 ans de souffrance, 12 ans d'impureté et d'exclusion, elle est guérie et propre, restaurée dans son corps et dans son âme, aussi bien que dans sa communauté par sa foi. Shalom. Dieu veut shalom pour ses enfants. Anne-Sophie avait conclu son exposé avec l'histoire suivante de sa vie à l'hôpital de Galmi, et je vais juste lire son récit. Les chirurgiens me disent que la femme qui avait eu une césarienne avait fait une complication liée à l'anesthésie et avait fait un arrêt cardiaque. après avoir eu recours aux manœuvres de réanimation et administré de l'adrénaline, son cœur s'était remis à battre. Mais quand elle avait repris conscience, elle était très agitée. L'après-midi, je suis allé la voir. J'ai prié avec la famille. J'ai imposé les mains à cette maman qui souffrait et je lui ai mis le bébé au sein. Le lendemain, elle était alerte et en bonne forme. Gloire à Dieu. J'ai partagé avec elle et avec sa famille l'histoire de Jésus. Jésus qui était ressuscité des morts, pas simplement après quelques minutes, mais après quelques jours. Jésus qui donne la vie éternelle. Puis Anne-Sophie continue, « Je parle aux femmes de ce Dieu qui les aime, qui désire shalom pour elles, leur rétablissement physique mais aussi spirituel. Ce Dieu qui a donné son propre Fils pour elles. Ce Dieu présent qui compatit à leur douleur et qui pleure avec elles. Ce Dieu qui, dans la nouvelle création, essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et elle conclut, « Dans la réalité quotidienne, je ne me sens pas capable de faire justice au principe de shalom, d'apporter cet équilibre entre les soins physiques et spirituels. Seul Jésus peut le faire parfaitement. » Amen. Notre Seigneur Jésus veut que nous soyons, nous aussi, des agents de shalom dans ce monde. Des ambassadeurs au nom du Christ, comme dit l'apôtre. Ici à Mulhouse, au Niger, en Australie, là-dedans, il y a l'accomplissement, en quelque sorte, de ces paroles de Jésus. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ayons donc des cœurs bien disposés envers Dieu, des cœurs ouverts à lui et à l'œuvre de son esprit, pour que nous puissions non seulement connaître shalom pour nous-mêmes, mais être porteurs de la bonne nouvelle de shalom autour de nous. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce shalom que tu nous offres par la personne de Jésus. Ô notre Dieu, nous te louons pour ta grâce et pour ta bonté, parce que nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons mérité rien du tout de ça. C'est uniquement par ta grâce que nous entrons dans ta paix. Ô notre Dieu, aide-nous à avoir les cœurs ouverts à non seulement garder cette paix pour nous-mêmes, mais à partager cette paix autour de nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.